Hyper Weekend Festival. L'Hyper Weekend Festival vous présente une hyper rencontre avec le groupe Terre Noire. Son thème, ce que l'écologie fait au monde artistique. Une exploration intime de nos désirs contradictoires entre nostalgie des mythes artistiques et nécessité de rupture radicale. Avec le conférencier David Hirle et la journaliste Anna Toumazov et modérée par Samuel Chabret de Pioche Magazine. Une hyper rencontre labellisée Centre National de la Musique.
Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Mille merci déjà d'être venus un samedi à 17h à la Maison de la Radio pour cette table ronde qui s'appelle « Ce que l'écologie fait au monde artistique ». Surtout que, bon, on va pas se mentir, on n'est pas dans la période la plus facile et la plus sympathique autour de l'écologie, en tout cas au niveau mondial. On va dire qu'on est, sans trop s'avancer, dans un moment peut-être de recul, je pense qu'on pourrait appeler ça comme ça. Et du coup, c'est d'autant plus précieux qu'il y ait des moments comme celui-ci qui ne soient pas pris et organisés par des dirigeants, mais par d'autres personnes qui s'organisent et qui disent ben, « nous, on va mettre des choses en place ». Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, avec nous, nous avons des gens, bien sûr, extraordinaires. Le groupe Terre Noire, salut. Raph et Théo, salut.
Salut.
Peut-être avant même de commencer, vous avez quand même joué hier, et vous pouvez peut-être juste nous dire un tout petit mot, comment ça s'est passé ?
Bah ouais, hier, c'était une journée incroyable. On a sorti notre deuxième album qui s'appelle Protégé. Voilà, donc on est très contents. Et c'était beaucoup d'émotions, et comme c'était pas assez d'émotions en une seule journée, on a décidé de jouer donc au studio 104 juste à côté ce premier album qu'on n'avait jamais joué de notre vie avec un orchestre qui s'appelle l'Orchestre du Nouveau Monde. C'était aussi la première fois de notre vie. Voilà. Donc on a fait tenir trois trucs impossibles. Voilà. Donc aujourd'hui je vous laisse un petit peu imaginer l'état de nos cerveaux, mais on est très heureux d'être là en redescente avec vous et justement de revenir sur terre et de parler de choses comme ça, ça a justement beaucoup de sens. Hier c'était un peu la teuf et aujourd'hui on se met à penser, donc c'est cool.
Et bah oui, parce qu'en plus, et ça on va y revenir, c'est quand même grâce à vous qu'on est là, et c'est vous qui avez tenu à organiser ce moment-là, et en plus dans un moment de musique, et de dire, bah tiens, en fait, on va organiser une table ronde, on va parler de l'écologie, et nous, on va prendre notre place à cet endroit-là. Ce qui est intéressant peut-être, puis après je vais présenter nos autres invités, c'est que bah, vous avez créé un label qui s'appelle Black Paradiso, vous n'êtes pas uniquement artiste, et vous avez aussi créé, et ça, c'est important peut-être pour la suite, un festival en 2023 dans votre quartier de Terre Noire. Et on va voir que ça, voilà, que ça a un sens par rapport à ce qu'on se raconte aujourd'hui sur l'écologie. Avec nous aussi, je présente tout le monde et puis après, tu vois, j'ai une longue intro, pardon. Mais ouais. Avec nous aussi, on a Anna Toumazov, qu'on a fait descendre de quelques étages parce que, en fait, tu es aussi productrice et animatrice de l'émission Tunnel au Move. C'est un moment assez extraordinaire. Bon, en plus, bon, tu m'as invité la semaine dernière, donc du coup, j'en fais un peu la promo, mais c'est vraiment un moment un peu de deux heures pour parler de sujets de société avec, je trouve, une part pour l'intime. Moi, ça m'a marqué un peu quand même aussi de se dire, tiens, on va pouvoir avoir un endroit un peu safe à parler de choses, on va pouvoir livrer des choses qui sont très intimes tout en se disant, bah, tiens, on a un cadre bienveillant pour ça. T'es aussi, pareil, on y reviendra après, hein, tu pourras compléter un peu ce que j'ai oublié. T'es aussi féministe, très en vue sur les réseaux sociaux, influenceuse, journaliste, enfin voilà, et tu es, et ça c'est aussi hyper important pour nous aujourd'hui. Tu es très en lien aussi avec le monde de la musique. Donc voilà, donc ça va être intéressant d'avoir ton regard sur une partie de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Et nous avons David Hirle. Toi, tu as fait venir d'un peu plus loin que les différents étages de la Maison de la Radio. Toi, tu as fait venir de Montpellier. Bah, pareil, je te connais un peu. On s'est rencontrés justement, tu es un conférencier. Tu as écrit un livre en 2021. Tu as co-écrit d'ailleurs un livre en 2021 qui s'appelle « Décarboner la culture face au réchauffement climatique. Quel nouveau défi pour la filière ?» Voilà, donc autant dire que tu as deux, trois trucs à nous raconter par rapport à aujourd'hui. Et bah, quand tu ne viens pas intervenir un peu partout en France, tu accompagnes aussi des festivals, tu accompagnes une partie de l'industrie culturelle et tu accompagnes aussi des villes, des territoires. Voilà, et le festival de BD d'Angoulême. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour celles et ceux qui ont suivi l'actualité du festival de BD d'Angoulême. Alors, j'ai une longue intro et après, promis, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce que l'écologie fait au monde artistique ? C'est un peu. Alors, le sujet est hyper vaste, donc j'ai essayé un petit peu de me dire, bah, tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir l'amener ? Et j'ai pris deux exemples d'artistes qui ont fait parler d'eux en 2024, et pas forcément pour les mêmes raisons. À ma gauche, Taylor Swift. Taylor Swift, donc, où chaque pas de danse génère une onde de choc économique si puissante qu'elle a donné naissance à un concept qui s'appelle les Taylornomics. Et pardon pour mon accent anglais absolument affreux. C'est l'effet Taylor Swift, c'est-à-dire que ça a été en 2023, c'est Bloomberg qui a écrit sur là-dessus en disant bah c'est ça a généré sa tournée américaine nord-américaine a généré plus de 6 milliards de dollars. Voilà, une manne qui profite à tout un écosystème de restaurants, de stades avec un peu ce côté-là, moi j'ai même lu des articles dans Mediapart sur l'effet Taylor Swift et de se dire que tout ce qu'elle touche se transforme en or. Et bah, c'est vrai que par contre, quand on sort des bilans financiers et quand on rentre dans un autre aspect qui est peut-être plus le bilan carbone, bah, c'est vrai que l'image n'est pas exactement la même pour le coup. Taylor Swift, justement, rien que pour la tournée nord-américaine, c'est des milliers de kilomètres parcourus en jet privé, plus de 50 000. Des fans qui, bah, bien sûr, si elle remplit des stades, bon, bah, en fait, toutes ces personnes-là viennent et malheureusement prennent un peu le même mode de vie. C'est-à-dire en général, viennent massivement en avion, notamment pour la tournée française. Pareil, je sais que David, t'as un peu 2-3 billes là-dessus. Et donc, et qui viennent souvent bah, juste pour le concert et sont à peu près dans une frénésie en plus de consommation. Quoi. Voilà, donc viennent pour des moments très courts, etc. Donc c'est vrai que quand on regarde, on se dit, tiens, c'est encore, paradoxalement, cette espèce de logique qui continue d'alimenter l'illusion qu'on est dans un monde de ressources infinies. Et à ma droite, l'autre artiste que j'avais envie de prendre, c'est Chaka Ponk. Alors, peut-être que vous connaissez Chaka Ponk. Pareil, c'est un groupe qu'on a vu au fur et à mesure des années se conscientiser, devenir de plus en plus radical autour de l'écologie, porter une parole assez forte, jusqu'au moment où, le 30 novembre dernier, en fait, ils ont décidé de mettre fin à leur tournée pour des raisons écologiques. Et je voulais juste vous reprendre, parce qu'ils étaient intervenus sur France Inter, justement, pour en parler. Et je trouvais que leurs mots étaient intéressants pour ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, ce qu'ils disaient, c'est on a pris conscience qu'on était devenu une partie du problème et qu'il fallait rendre notre groupe le plus éco-responsable possible. On a choisi d'arrêter par cohérence existentielle. On ne peut pas délivrer de beaux messages et cultiver une activité professionnelle aussi polluante. Continuer la musique, mais autrement, en se donnant corps et âme pour essayer de faire balancer les choses du bon côté. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait en mettant ces deux exemples côte à côte, c'est qu'on a l'impression que d'avoir deux faces un peu d'une même pièce, c'est-à-dire que d'un côté, et peut-être en plus des choses par lesquelles on est tous et toutes traversés aujourd'hui, alors je le redis, mais ça c'est peut-être hyper important, on n'est vraiment pas là pour distribuer ni des bons, ni des mauvais points, ni pour avoir une posture morale, ça je le redirai quand même, mais c'est assez important. Mais effectivement, quand on voit Taylor Swift, on est obligé de se dire que ça ressemble quand même à une sorte de déni assez grandiose, avec une espèce de fuite en avant qui est acclamée par toute une partie de la société. Et quand on regarde Chaka Ponk, on pourrait dire, bah, tiens, ça va dans le bon sens. Et en même temps, bah, quand ils se retrouvent à parler sérieusement d'écologie, ils arrêtent d'être artistes. Et ça, quand même, ça, bah, déjà, ça nous interpelle parce que, bah, en fait, déjà, si on est ici, et ça, c'est peut-être ce qui est un petit peu rassurant, c'est de se dire que, bah, oui, il y a toujours eu d'autres voies qui ont existé, toujours eu d'autres chemins, qui sont peut-être moins médiatiques, que d'autres choix sont possibles, entre continuer comme si de rien n'était ou arrêter purement et simplement d'être artiste. Il y a d'autres façons de faire des tournées, voilà, comme celle que mettra en place Terre Noire, et ça, on va y revenir, qui ne sautera pas d'avion en avion, mais prendra le temps de se déployer dans chaque région de France pendant plusieurs semaines. Et je reviens sur l'exemple de Chaka Ponk, parce que ça devrait nous interpeller aussi très fort. Et moi, je dis ça parce que je ne me suis pas présenté, Samuel Chavret, je travaille pour un média qui s'appelle Pioche Magazine, qui parle de culture et d'écologie. Donc, on va dire que le monde du militantisme écologique, voilà, je baigne un peu dedans, malheureusement. Et donc, du coup, bah, pour moi, ça devrait en fait nous interpeller. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a interpellé en me disant, en fait, est-ce qu'on ne s'est pas planté quelque part dans la façon dont on a abordé ce qu'était l'écologie? Est-ce qu'au-delà des tonnes de CO2, des bilans carbone, des choix de matériel, ce qu'on prend pas, en fait, est-ce qu'il n'aurait pas fallu poser dès le départ en se disant, bah, en fait, quand on parle d'écologie, c'est pas ça les questions qu'on adresse. C'est par exemple interroger radicalement notre rapport au temps. Se dire, bah, en fait, on ne va pas être dans la vitesse. Je pense que si vous habitez à Paris, vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on est tous et toutes un petit peu pris dans cette espèce de tourbillon, etc., qu'on est plus en train de subir qu'en train de choisir en ce moment. Ou alors, ça peut être aussi de poser la question de comment on pourrait vivre et comment on a envie de vivre. Bah, c'est pareil, d'autres l'ont déjà fait, mais quand même se redire qu'on sort d'un endroit un peu technique et technocratique, on a l'impression d'être quelque chose de très, très lointain, et en fait, de se dire, bah, non, c'est quelque chose de proche, de nos vies et de comment on a envie de les vivre, dont il faut parler, donc des liens qu'on a envie d'avoir, des liens au territoire aussi, ça on va y revenir. Et peut-être aussi de ce que le capitalisme fait à nos corps, à nos vies. Voilà, ça c'est peut-être un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et enfin, et ça c'est peut-être pour revenir un tout petit peu sur le monde artistique, c'est est-ce que c'est pas l'occasion aussi, quand on parle d'écologie, de se dire, mais c'est quoi en fait le rôle des artistes ? Ils doivent jouer quoi comme rôle dans la société ? Et qu'est-ce qu'ils peuvent et qu'est-ce qu'ils doivent prendre ? Ou qu'est-ce qu'ils pourraient avoir envie de prendre ? Et pareil, est-ce que c'est pas temps, et ça on va y revenir avec nos différents invités, de se dire, ben, peut-être qu'on va réinterroger aussi, déconstruire les imaginaires capitalistes industriels à l'aune desquels on est en train de regarder et d'analyser le succès de l'un ou l'autre des artistes qu'on peut aller voir. Et en bref, et si parler d'écologie, ce n'était rien de moins qu'une invitation à parler de révolution. Voilà, bah ça c'était ma petite intro. Et du coup, j'ai envie de poser la question à tous les quatre. C'est quoi, vous, votre rapport au mot écologie, à l'écologie ? Voilà. Est-ce que vous avez, je ne sais pas qui a envie de se lancer là-dessus, mais vous, comment vous êtes avec ça, justement, en 2025 ? David ?
Le mot qui vient quand tu proposes de réagir à écologie, c'est avenir. Pour moi, c'est le seul chemin où on peut construire un avenir à la fois désirable, viable, convivial, agréable, tourne autour de la question de l'écologie et de comment on travaille l'écologie. Et après, le deuxième réflexe que j'ai quand on me pose écologie, c'est l'écologie, c'est l'art de la relation avec un milieu, un habitat, un territoire, on y reviendra. C'est comment on reprend connaissance de où on habite. Et on a plus perdu la culture de ça. On fait des événements hors sol et du coup, ils se ressemblent un peu tous. On fait un peu tout le temps la même chose partout. On a standardisé des choses. Alors qu'en fait, l'écologie renvoie à une réalité de où tu fais ton truc. Et selon où tu le fais, ça va être forcément différent. Donc ça, du coup, c'est intéressant parce que ça amène de la diversité, pour le dire vite.
Anna ? Ah, allez, Anna.
Moi, je trouve que l'écologie, c'est des discussions d'ailleurs que j'ai déjà eues avec quasiment chacun d'entre vous. C'est un peu l'endroit par excellence où se retrouve un problème de déconnexion qu'on trouve dans les milieux politiques, qu'on trouve dans les milieux médiatiques et qu'on trouve dans les milieux artistiques entre le discours, donc ce qui serait possible et ce qui serait désirable, c'est-à-dire une conduite absolument exemplaire vis-à-vis de la planète ou une conduite absolument exemplaire en tout point sur ce qui serait donc le politique et des personnes qui ne font jamais rien de problématique, enfin tout ça, tous les problèmes de pureté militante dont on parle très souvent. Et l'écologie, c'est le souci, enfin je trouve que c'est l'endroit par excellence où il y a eu un échec pour moi de Paris, d'où émergent tous les discours militants et politiques, puisqu'il y a eu une façon de penser l'écologie et de vouloir faire advenir des bonnes pratiques qui étaient complètement déconnectées de la réalité des gens du territoire hors Paris. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai vu que la toute première guerre qui se faisait à Paris, où effectivement on a loisir, même si c'est pas toujours agréable, de se déplacer en métro ou en vélo, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours agréable non plus, mais aller faire des leçons sur les connards qui prennent la voiture, c'est quand même un petit peu fort de café. Et je crois que parfois, et on le voit sur plein d'autres pans de l'action et de la pensée politique, si on commence par crisper les gens en leur disant que de toute façon ce qu'ils font c'est nul, mais qu'on leur donne pas d'autres alternatives, c'est très très compliqué. Donc l'écologie, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes sur c'est quelque chose de nécessaire à l'heure où la planète se meurt et où on est face à des dictateurs qui n'ont d'autre ambition que de la ravager. Je crois que c'est un endroit qui est un cas d'école de comment pendant 10 ans au niveau du discours qu'on a pu produire, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà.
Raph, Théo ?
Moi, l'écologie, c'est un peu entre les deux. C'est évidemment, moi, ça me touche quand David parle de cette connexion avec le milieu qui est autour de soi. Cette espèce de connexion au territoire, comment on interagit, toutes les échanges de relationnels, de vivants, communicationnels, logistiques de vivants, quoi. Et j'ai aussi le mot écologie. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, il est très connoté d'une forme de verticalité, de hauteur, en fait. D'une forme de déconnexion, qui est un mot, c'est étonnant, hein, c'est-à-dire que qui est associé au politique, associé à presque un parti politique, ou en tout cas, où aujourd'hui, enfin, je le dis comme je le pense, à presque à des produits, à du bio, à des choses comme ça, enfin, et assez peu connecté à une forme de réalité que je ressens, et j'ai senti que c'est un mot en tout cas qui crée une bascule de classe sociale presque pour moi. Donc voilà, le mot écologie, il est déjà complexe. En tout cas, il génère quelque chose de contradictoire à l'intérieur de moi.
Théo ?
Ouais, pareil que Raphaël. C'est ce côté maintenant quasiment produit, marketé un tout petit peu, l'écologie. Et pour moi, je reviens beaucoup sur ce que tu as dit, David, sur cette idée aussi de comment... comment dire, l'écologie est en contre aussi de ce qu'on ressent donc quand on duplique les concerts, en fait, qu'on commence à se retrouver sur des concepts très propres. Le concert qui se duplique, toujours la même chose, on rentre nous-mêmes dans des concepts industriels de comment faire une tournée, de comment se dire que, et on est complètement à l'inverse de l'écologie, se dire qu'un concert, en fait, c'est des rencontres, c'est des spectacles et c'est des moments qui doivent rester absolument mémorables. Et à l'intérieur d'un, de quelque chose qui, nous, dans nos imaginaires, être un artiste, c'est extrêmement végétal. C'est se dire, on va faire de la musique, il y a des couleurs et tout. En fait, on se retrouve tous les jours dans une scène, dans une zone périurbaine, dans un Ibis budget, dans un van, dans une zone périurbaine, dans un Ibis budget, dans un van. Dans... Et finalement, ce que je vois dans mon image mentale, si je reviens, me reconnecte à mon intime, il n'y a plus du tout d'écologie, il n'y a plus du tout de nature dans mon image mentale. C'est simplement un endroit avec du béton et un tapis roulant qui nous fait avancer comme ça à l'intérieur. Donc comment retrouver à l'intérieur de nos professions aussi, donc bien évidemment dans le sens de la notion d'écologie, mais aussi le sens d'image mentale de l'écologie, comment on se retrouve à retrouver de l'aspérité, comment on essaie de retrouver ça désirable en fait. Comment, comment les frottements, les petites contradictions, les petites rencontres, les choses qui font le sel de la vie redeviennent désirables et ne sont pas l'idée d'être un espèce de petit palier qui nous fait monter comme ça et nous fait devenir un produit de capitalisme en fait qui devient de plus en plus un peu engraissé, de moins en moins en capacité de penser puisqu'il n'a plus besoin de penser, il est simplement amené.
Juste, tu voulais rebondir là-dessus ?
Ouais, juste pour rebondir, il y a deux endroits où je n'arrive pas à utiliser le mot écologie, c'est avec des élus plus ils sont à droite et avec les endroits de quartier populaire ou en zone très rurale. Donc dès que je vais être en fait hors des métropoles urbaines, effectivement, le mot écologie devient tabou et je suis obligé d'avoir des stratégies de contournement pour amener de l'écologie, hein, au final, mais sans forcément utiliser le terme.
Et peut-être pour quand même pour se redire, parce que c'est quand même important, c'est vous qui avez souhaité que cette table ronde ait lieu. Pourquoi c'était important pour vous dans un moment, enfin, un moment de musique à la maison de la radio, pourquoi c'était important de prendre la parole là-dessus ?
Parce que de plus en plus, on a l'impression que s'il s'agit de modifier nos pratiques, on va pas pouvoir le faire seul. Et on est toujours très heureux d'être proche de gens qui ont d'autres visions, d'autres métiers, qui pensent en fait, qui ont le temps de penser. Nous, notre métier, c'est de faire des chansons. Et en fait, en organisant le festival de Terre Noire, on a aussi fait des temps de table ronde comme ça, qui étaient assez puissants et qui permettent de déployer de la pensée. Et en fait, ce que tu dis, David, c'est que nous, le festival de Terre Noire, il y a eu des enjeux écologiques, mais qu'on n'a jamais nommés. Terre Noire, c'est notre quartier d'enfance, c'est à Saint-Étienne, c'est un quartier populaire, un ancien quartier de mines, de mineurs. Terre Noire, c'est le charbon. Et en fait, nous, c'est voilà, l'écologie, on essaie de la faire passer en cheval de Troie à l'intérieur des choses, de pas la nommer. Par exemple, notre tournée, ben, y a un enjeu de décarbonation, mais on va jamais le nommer. Pour nous, c'est des espèces de produits d'appel qui justement envoient un mauvais signal. C'est pour ça que, on parlera peut-être de la tournée un peu après.
Sinon, si vous voulez, on peut y venir. Hein, tu vois, pour le coup, parce que pareil, ça. Du coup, peut-être que les gens ne le savent pas, mais c'est justement, vous avez fait un concept de tournée qui s'appelle la tournée des territoires, vous avez taffé quoi, sur à quoi ça ressemble, pourquoi ça ressemble à ça. Et peut-être, ouais, ce serait cool de se redire, bah tiens, vous n'êtes pas là en plus non plus par hasard, uniquement en portant un récit, ce serait déjà très fort, mais aussi parce que vous avez une modification de vos modes de faire.
Ouais. Nous, on est vraiment parti du Festival de Terre Noire. On a toujours pensé que l'ancrage... En fait, on s'appelle Terre Noire, c'est le nom de notre territoire d'enfance, c'est le nom de l'endroit où on est né.
Peut-être c'est où Terre Noire pour ceux qui ne savent pas.
Enfin, Saint-Étienne, quartier de Saint-Étienne. Et donc, en partant du festival, on s'est rendu compte que la musique avait cette puissance de démultiplication des liens. Donc, pour nous, ça n'avait jamais été que de faire des concerts. C'est la musique, elle a juste été presque un prétexte à produire des rencontres. Donc, il y a eu le centre social de Terre Noire. Qui a travaillé avec nous, on a travaillé avec des petits, on a travaillé avec le musée de la mine qui était en lien avec le centre social de Terre Noire, on allait chercher la médiathèque de Terre Noire, c'est toutes les médiathécaires qui ont fait des lectures, les artistes ont travaillé avec la médiathèque pour lire des choses aux enfants, on a travaillé avec le club de foot de Saint-Etienne qui s'appelle l'ASS, on a mis le sport aussi au centre en le mélangeant à la musique, l'amicale laïque de Terre Noire, c'est dans un ancien réseau communiste, qui sont maintenant des gens qui ont plutôt 80 ans, 70-80 ans. Donc on a essayé de faire en sorte que le festival soit un prototype de démultiplication, de tissage social, comme une kermesse en fait, hein, c'était pas plus compliqué. Pourquoi on a voulu le faire ? Parce qu'on s'est rendu compte que ça n'existait plus. Nous, quand on était gamins, il y avait des fêtes de quartier qui existaient, il y avait des tissus associatifs qui étaient tenus vraiment par les communistes, qui se sont délités, et en fait, à l'image de plein de quartiers, plein de coins français, il y a vraiment une fracture, on a senti, entre des populations, des gens qui ne se parlent plus, qui ont peur les unes des autres, etc. etc. Et nous, à l'intérieur de ça, c'était la montée de l'extrême droite, quand on décide d'organiser le festival, de se dire, mais en fait, on ne veut pas que notre quartier, qui a été historiquement un quartier antiraciste, ou en tout cas qui était vraiment tenu comme ça, avec des gens qui vivaient ensemble, avec beaucoup de sport, etc., où on sentait que les discours racistes, même à l'intérieur de l'amicale laïque, en tout cas des gens qui, voilà, d'une vraie distanciation des uns à côté des autres. Tout ça pour dire qu'on part du festival, on adore ce qui se passe, on se rend compte que les gestes fonctionnent assez bien, et on se dit comment... ça nous semble un geste écologique, en fait, premier, qui est...
Re-questionner, quoi tu veux dire, l'ancrer dans un territoire, tu veux dire ?
Que la musique soit une manière de démultiplier les liens sur un territoire donné. Donc, on se dit comment on peut faire pour que les dates ne soient pas sans standardiser, comme a dit Théo et comme a dit David, c'est vraiment cette idée de standardisation qu'on ressent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre l'imaginaire rock'n'roll de la tournée et la réalité de ce qu'elle est. C'est souvent tout pourri. Pas les concerts, mais tout l'environnement. Il y a énormément de temps morts qui sont très abrutissants. C'est-à-dire qu'on se retrouve à arriver à 16 heures, on fait les balances, on voit une loge, on a souvent le même Kit Kat, ou si on refuse les Kit Kat sur son rider, des fruits. Du Lidl et ensuite on joue et ensuite on va se coucher à l'hôtel de la zone périurbaine et le lendemain matin 8h on est parti. Donc il y a quelque chose où tout d'un coup ça devient assez abrutissant alors qu'on a une chance inouïe, c'est de traverser les espaces, traverser la France, on pourrait rencontrer plein de gens, mais en fait on n'a pas ce temps de le faire parce que il faut que ce soit quand même rentable économiquement. Donc tu pars à 8h, tu fais souvent les tournées ne sont pas pensées pour être régionalisé, on va y venir, mais nous on essaie de régionaliser la tournée. Donc si en fait tu fais 8 heures de van, tu arrives, il est 16 heures et tu recommences. Donc.
Non, vas-y, je te coupe.
Et donc voilà, donc notre tournée elle est régionalisée. Donc on commence par une région, on reste dans cette région et on fait toutes les régions de France les unes après les autres. Donc c'est plein de petites mini tournées les unes à côté des autres. Comment on fait ? Ça pose une problématique. Les salles flippent parce qu'elles ont des contrats d'exclusivité. Elles ont peur de... si tu joues chez elles et que tu veux jouer dans la ville à côté...
Peut-être tu peux dire ce que c'est les contrats d'exclusivité.
Contrats d'exclusivité, ouais. Il y a un rayonnement géographique autour d'une salle qui fait que quand tu joues quelque part, tu peux pas jouer trop proche dans un temps trop proche. Quoi.
Ouais, je sais pas si c'était fait pour avoir l'exclusivité en fait, de certains artistes. Et donc, du coup, quand tu viens, tu signes un contrat d'exclusivité. Et donc, du coup, tu t'assures de remplir ta salle parce que...
C'est ça. Voilà. Et donc c'est pas contre les artistes, c'est aussi pour la viabilité économique des salles. Mais donc voilà, il a fallu parler avec les salles, les convaincre de dire, bah en fait nous on a la sensation que on a envie de réduire les temps de déplacement pour le bien-être des équipes. Il y a aussi un enjeu en effet de en vrai c'est aussi beaucoup parce que c'est trop chiant le van. Et on se dit, mais en fait, justement, penser la modification des pratiques, les rendre plus écologiques, c'est aussi une forme de design qui est intéressante. C'est de faire les choses dans une forme de bon sens qui est là. Donc, il y a pas mal de salles qui nous ont suivis. Donc, on a réussi à régionaliser notre tournée. Mais on ne pouvait pas, pour des raisons de planning, parfois coller les choses. Et nous, on est arrivé avec cette volonté de se dire, comme sur le festival, on a envie de faire des gestes de rencontre. On est frustré de jamais passer une nuit au même endroit. Enfin, on passe qu'une nuit, on est déjà parti. On ne rencontre pas les villes, on ne visite pas les espaces, on ne rencontre pas les gens. Jamais. On rencontre que les ingénieurs du son. De temps en temps, on a serré la main au programmateur. Et en fait, on reste qu'avec notre équipe. Donc, il y a quelque chose qui est assez en circuit fermé. Là, tout d'un coup, on a... Très concrètement, on joue, par exemple, à Tourcoing, bientôt, fin mars. On joue le mercredi. Et bien, en fait, on arrive le lundi. Et le lundi, le mardi, on a mis en place, avec la salle, donc là, c'est le grand mix à Tourcoing, des gestes de rencontres artistiques, d'actions culturelles, déployées sur 2 jours. On travaille avec une chorale de seniors. On travaille avec des ateliers de musique d'école ou de conservatoire. On fait des ateliers d'écriture, etc. Donc on a une diversité de publics, une diversité de rencontres. Et ça, pour l'avoir beaucoup fait l'année dernière, on a par exemple travaillé dans les quartiers nord de Marseille une semaine dans une école primaire. On a travaillé dans un conservatoire à Bourges. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous, on a des moments extraordinaires. On est très, très nourris par ce qui se passe. Donc ça, c'est la première partie. C'est vraiment la partie régionalisation et action culturelle.
Ouais, on peut quand même le dire que c'est quand même remarquable. C'est-à-dire qu'autant il y a d'autres milieux, on peut penser au théâtre, on peut penser à plein d'autres milieux artistiques qui sont habitués à avoir à participer à la vie de la cité, quoi, de vraiment faire de la politique au sens noble du terme, quoi. C'est-à-dire de dire, l'art, il est pour tout le monde, comment on le rend accessible? Et par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en général, pour des artistes musicaux qui ont atteint une certaine notoriété, qui passent à la radio, qui va remplir et tout, etc., en général, c'est presque contre-intuitif. C'est-à-dire que ça échappe, c'est presque pas possible en fait de faire ça. Et donc du coup, c'est ça que je trouve intéressant, moi, dans votre geste aussi, c'est que tout d'un coup, vous cassez aussi une partie de l'image et de l'imaginaire qu'on a avec les artistes. Ça, c'est Théo, ouais.
Bah ouais, c'est surtout pas un désir en fait quand on devient plus gros de se dire qu'on va refaire de la médiation culturelle, parce que ça va pas vraiment dans le sens de l'idée du capitalisme, ou de se dire non, là, on peut sortir de la cité, donc du coup, on devient protégé. Mais s'extraire, c'est une douleur immense, parce que c'est vecteur de solitude, terrible.
Ce que tu décrivais juste avant, avec cette espèce de routine,
oui,
dont les gens ont peut-être en général peu...
On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, parce qu'en plus, il y a des petits moments de rencontre. C'est les moments de merchandising, si on vient faire signer des disques, on vient faire vendre du matériel, on rencontre des personnes, mais c'est des temps extrêmement courts. Et encore, c'est la fractale, c'est un geste de vente, c'est encore un geste capitaliste, et c'est aussi un geste de truc à la chaîne. C'est les personnes qui... Ouh, merci. Deuxième. Donc c'est encore une fractale, comme je disais, du tapis roulant. Et c'est vendu dans notre société comme pas désirable d'aller engager les choses. Moi, à titre personnel, ce sont des choses qui me faisaient peur, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'enraciné en moi qui vient aussi de la manière dont j'avais... eu comme image mentale ce que doit être
un artiste
comment on arrive. Et moi, au début, quand je me suis dit ça fait peur, parce que déjà, donc je suis un petit peu plus jeune que mon frère quand on a commencé à faire les médiations, j'avais 25-26 ans, donc aussi il y a aussi des petits trucs de confiance, qu'est-ce que c'est que la transmission, comment on se place. Mais par contre, dès qu'on y est, moi je sais que par exemple, je me suis toujours dit je pourrais jamais être prof, impossible de transmettre des choses. En fait, j'étais obligé d'aller à la rencontre de ces élèves et de me dire,
il y a Marseille.
Oui. Il y a Marseille. J'ai été pendant une semaine non-stop avec des enfants en classe de 8h30 à 16h30, seul, avec un prof qui encadrait un peu de loin, mais vraiment seul au tableau et tout et tout. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai une chance, un privilège énorme. Je viens de jouer à être prof pendant une semaine dans ma vie. Alors qu'en fait, la plupart des êtres humains sur cette planète, dès qu'ils ont un métier, ça y est, c'est là. Alors on peut avoir plein de choses à faire dans un métier, plein de choses différentes. Mais là, je change d'espace. J'ai changé d'espace, j'ai changé de profession le temps d'une semaine. Et j'ai pu me mettre à la place de quelqu'un. Et j'ai pu créer une passerelle et une connexion et communiquer avec des choses. Et c'est une richesse absolue. Moi, ma vie, elle a changé profondément et durablement de cette semaine-là. C'est un privilège immense. Je peux vous dire que faire un an de tournée dans un van, on change beaucoup moins que quand on est avec des élèves.
Ça nourrit moins, quoi.
Devant l'obstacle ou devant l'épreuve, il faut aussi dire que l'épreuve et les obstacles et les choses très, très inconfortables, ça doit faire partie aussi du désir, en fait, de ce qu'on a envie de faire. Donc, des fois, c'est trop difficile. Mais par contre... s'enfermer dans le confort de quelque chose, ça, c'est un peu mortifère. Et moi, je pourrais jamais dire à quel point la médiation, elle change des choses en moi. Et c'est très, très, très important.
Tu voulais rebondir, du coup ?
Non, mais je trouve ça hyper intéressant ce que disent les garçons, parce qu'au-delà de la vocation politique, où évidemment, j'imagine, enfin, je sais qu'il y a un vœu de reconnexion au territoire, parce qu'on l'a vu notamment avec la très sombre période de la dissolution, où notre monde a poursuivi sa bascule infernale. Il y a une volonté de se reconnecter, non pas de se reconnecter au territoire, parce qu'en fait c'est l'essentiel de la France, mais en tout cas d'aller remanier et de se dire qu'on est un ensemble, quoi, ce pays, et que c'est pas juste Paris et l'Île-de-France et du reste un espèce d'océan un peu vague où il y a des bofs qui vivent, enfin un truc assez infernal. On sait de toute façon comment on est perçu à Paris quand on vient de province. Et tout ça pour dire que il y a autre chose, ça se voit en fait chez vous, et je sais même pas si vous l'avez complètement conscientisé. Mais y a un truc, j'ai l'impression, chez les artistes de plus en plus fort, en tout cas moi, chez les artistes que je reçois, où en fait, faire de l'art n'est plus la seule fin en soi. Le produit artistique, c'est-à-dire le projet studio, puis le concert. Il y a vraiment une volonté que le process de création, puis le process de représentation au public, soit un moment agréable aussi. Je l'ai vu récemment là, dans les tables rondes, enfin dans les tables rondes, dans les émissions que... les castings que j'ai pu avoir. Samuel, tu étais dans l'émission il y a 10 jours de ça, avec Didier Varro, à qui on doit l'ensemble de cet événement, qui est le directeur musical de la maison de la radio et de la musique. Et il y avait la chanteuse et comédienne et réalisatrice Mayra et l'humoriste Charles Soignon, qui avaient pour point commun de considérer leur art comme un artisanat, comme quelque chose de minutieux un peu qu'elles font tous les jours, qui va leur donner du plaisir tous les jours à mesure qu'elles façonnent leur façon de faire. Et sans le vouloir, les artistes qui étaient là ce jeudi dans Tunnel l'ont aussi plus soigné. C'était la réalisatrice Ouda Benyamina, l'actrice Oulaya Amamra et Kaina Samet, donc la chanteuse légendaire de R&B française, qui, pareil, ont qualifié leur art d'artisanat. Et je crois qu'il y a ce truc maintenant chez les artistes. Peut-être que c'est le Covid aussi, et cette période de latence où tout le monde s'est un peu posé sur sa vie, etc., qui a pu changer les façons de penser, les façons de se déplacer, les façons de réfléchir nos professions. Mais en tout cas, on dirait que maintenant, à la frénésie qui a été autrefois celle des artistes, où il y avait la volonté de faire les tournées les plus gigantesques, de faire les salles les plus gigantesques, et de multiplier les preuves de réussite avec des nombres de streams, des nombres de concerts. On pense même aux artistes mythiques en France, les Jacques Brel, qui étaient vus comme des machines parce qu'ils faisaient des 2-3 concerts par jour. Bon, plot twist, il en est mort. Mais je veux dire, on dirait que à cette frénésie d'avant s'oppose de plus en plus chez beaucoup d'artistes, pas tous évidemment, mais chez beaucoup. Déjà, la mise en valeur de la santé mentale, on voit énormément de projets. Moi, sur les communiqués de presse que je reçois, il y en a presque 1 sur 3 qui dit que le disque se veut le récit d'une guérison. Enfin voilà, on a vraiment ces termes de guérison, de reconnexion qui reviennent beaucoup. Et j'ai l'impression, et votre tournée s'inscrit aussi là-dedans, qu'il y a une volonté que le travail artistique ne soit plus seulement la production d'une œuvre et sa représentation, mais aussi tout le plaisir qu'on va prendre à travers ce process de production, puis ce process de représentation.
Et ça, t'as l'impression... en plus, effectivement, t'es un endroit privilégié parce que tu vois passer énormément de monde chaque semaine.
Beaucoup de chance.
Ouais, mais du coup, qui est intéressant parce que, effectivement, tu vois, je me demandais en préparant, en me disant, bah tiens, est-ce que le geste que là, on est en train d'avoir du côté de Terre Noire, c'est un geste qui est, pour moi, finalement, c'est qu'il n'y a que eux deux. Bon, bah, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Ou est-ce que tu vois quand même d'autres personnes? Et ce qui est marrant, tu as déjà commencé à répondre, tu vois, mais c'est que j'ai l'impression que ce qu'on va nommer écologie, tu vois, toi, tu as dit, bah tiens, c'est marrant, on revient à un endroit artisanal. Et ça, il y a une espèce de contre, effectivement, de peut-être quelque chose qu'on nommait pas comme ça avant, mais qui est en compte du capitalisme industriel qui nous amène quand même, enfin, on sait très bien que les deux sont extrêmement liés, et que du coup, rien qu'en changeant ces modes de faire là, on fait écologie. Alors même que, peut-être que si tu poses la question de but en blanc aux personnes, elles vont pas du tout avoir l'impression de faire ça.
Mais de toute façon, aller dans le sens de l'écologie aussi, je crois, c'est se réinscrire en tant qu'être humain, en tant qu'espèce, dans son environnement. Et effectivement, le gigantisme que j'évoquais avant, où les artistes, plutôt qu'aller faire 3 dates dans une région, allaient préférer faire la plus grosse salle du chef-lieu, ou même ne faire que d'énormes dates à Paris, où les gens, effectivement, allaient se précipiter, parfois en avion, etc. On avait des publics qui allaient se retrouver à aller voir leur artiste préféré se produire, mais aller prendre un train au mieux, un avion au pire, donc être dans des transports, puis se retrouver dans une salle, mais impersonnelle puisque complètement détachée de leur environnement habituel, voir le truc, peut-être dormir à l'hôtel et repartir, exactement comme vous le faisiez en fait dans ces tournées un peu frénétiques. Et là, moi, je crois que c'est très important ce genre de tournée. Alors déjà parce qu'il y a la volonté pour vous de découvrir vraiment l'espace, et une fois que vous produisez devant le public, d'avoir l'impression d'un peu mieux le connaître, de connaître peut-être son accent, son histoire, ses façons de vivre, etc., qui, on le sait, sont très, très différentes, ne serait-ce qu'à travers la France. Et après, oui, aussi cette idée de venir jouer au plus proche de chez les gens, quitte à faire le deuil de faire des dates impressionnantes où il y aura 15 000 personnes et où sur les stories Instagram, ça va avoir l'air super impressionnant. On sait que c'est pas le but. Et je crois que il y a quand même une claque au niveau santé mentale, je crois, et réalisation de soi-même et de la vie qu'on mène depuis quelques années, donc avec le Covid et les deux ans en fait où on a été semi-enfermés. Et je trouve que ça se voit chez des artistes comme vous qu'il y a aussi la volonté de se dire « Bon, je fais de l'art pour être heureux, mais si tout le process pour faire de l'art ne me satisfait pas et ne me sens pas aligné avec qui je suis profondément et ce en quoi je crois profondément, peut-être que ça n'a pas de sens. » Et on sent que là, votre démarche, elle a du sens. Et les artistes, de plus en plus, veulent avoir du sens. Et je vais même aller plus loin, mais les festivals, je suis beaucoup démarchée pour les tables rondes, machin, les actions en festival, notamment sur mon volet professionnel plus militant. On voit qu'il y a de plus en plus de festivals. Je parlais avec une fille hier qui organise un festival à Saint-Brieuc, où je crois que peut-être que vous allez aller, d'ailleurs, je ne sais plus. Il me semble. Ouais, oui. C'est ça, exactement, le nom m'échappait. Où en fait, elle fait venir des artistes rock confirmés ou newcomers, et, c'est-à-dire pas encore forcément connus du grand public et mainstream. Et elle choisit de mêler à ça d'autres formes d'art. Je suis aussi invitée sur plein de festivals où ils décident de faire tout un volet militant ou un volet de vie. La semaine passée, j'ai eu la chance d'avoir, lors d'une table ronde, des gens qui faisaient partie du comité du festival Opal, qui est un festival du côté de Rennes, où en fait, il y a toute une communauté Opal, avec plusieurs centaines de milliers de personnes, qui co-construisent ce festival ensemble toute l'année, et puis qui ensuite se rejoignent dans cet espace, quelque part en Bretagne, et participent. Il n'y a pas d'argent, en fait, là-bas, il n'y a pas de monnaie, et il y a la volonté de construire ensemble une espèce de société idéale pendant quelques jours, où tout le monde participe à la musique et à la cuisine et au bar et à l'entretien des chiottes, et la volonté peut-être après d'aller transposer ces utopies dans le monde réel. Voilà.
David, je te vois prendre énormément de notes sur ton petit calepin. Oui. C'est quoi le regard que tu poses sur tout ce qu'on vient de se dire ? En plus, t'as un peu notre caution expert aujourd'hui, un peu. Donc,
Déjà, c'est réjouissant parce que je pense que là, ce qu'on est en train de se raconter, c'est les perspectives qu'on a, ce qu'on peut faire pour trouver des solutions et pas faire qu'une chacaponque, c'est-à-dire se dire il faut qu'on arrête tout et vraiment trouver le bon chemin. Des pratiques qui seront soutenables demain et puis qui amènent aussi une vraie valeur ajoutée par rapport à juste on fait de la musique, qui contribue en fait. Si je devais faire un peu le grincheux, quand même qu'il y a moins un grincheux à la table ronde, il faut constater qu'on est vraiment dans un moment de changement de paradigme, c'est-à-dire qu'en même temps, on voit émerger des nouvelles manières de faire, une sensibilité différente des gens engagés, et le pire des pratiques n'a jamais aussi bien marché. Le Hellfest est sold out en 48 heures, Tomorrowland, ils ont été sold out hyper vite. Donc on est dans ce moment un peu paradoxal où le pire continue à marcher très 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 fort. Et on voit tout un tas de pousses vertes, de choses émergentes hyper intéressantes apparaître. Sous-entendu, pour moi, clairement, quand je fais l'analyse de tout ça, je sais où est l'avenir. Je vois bien que les colosses, les très gros, c'est des colosses au pied d'argile, dans le modèle économique qui est extrêmement fragile, extrêmement fragilisé par les crises environnementales qui sont là et qui ont des effets très concrets sur leur capacité à s'assurer, leur modèle économique, enfin bref. On pourrait en parler des heures, juste en long story short, ce sont des colosses au pied d'argile. Il y a aussi tous ces drivers qu'on a et qu'on n'arrive pas encore totalement à reconstruire. Je vais vous prendre un contre-exemple, encore une fois sans accuser, hein, c'est juste un exemple qui vient raconter un effet de contexte. Quand Zao de Sagazan et les copains de Warp Prod m'en voudront peut-être un peu d'en parler, mais quand elle gagne les victoires de la musique, une des premières choses qu'elle fait, c'est qu'elle annule les trois dates en région, dans des scènes nationales, sur des petits formats, pour pouvoir préparer sa tournée des Zéniths. Donc ça raconte qu'on est quand même globalement dans des trajectoires encore où le succès...
C'est ça, la logique, c'est celle-ci. Voilà. Quoi, ouais.
Et on va pas se mentir, je pense que pour l'instant, le driver du succès, c'est plutôt celui-là quand même, globalement. Et en fait, tu parlais du théâtre et de la danse, tu étais très gentil avec mes copains du théâtre et de la danse que je connais bien parce que je bosse beaucoup avec, dans l'opéra. En fait, quand tu fais de l'action culturelle, en vrai, c'est parce que t'as pas trop le choix.
T'as un peu souvent, échoué, ouais. Ouais.
Et j'ai encore... Finalement, il y a encore des artistes du théâtre et de la danse qui sont extrêmement engagés et qui font de l'action culturelle parce qu'ils le veulent, parce qu'ils sentent bien que ça vient nourrir leur art. Le principe des droits culturels, c'est travaille aussi ça. Mais quand même, globalement, on a aussi les mêmes trajectoires de où le succès, c'est tu t'es débarrassé des trucs d'enseignement, et d'aller rencontrer les vrais gens, et tu te concentres sur ton art avec un grand A et pas l'artisanat, quoi. Bon, et puis voilà, on est sur ces moments de frottement qui, encore une fois, pire des pratiques et puis tentative de faire des choses nouvelles. Je m'étais noté aussi en gros point de vigilance. Comment réagissent les publics dans toute leur diversité face à ces grands changements, avec des publics qui valident ces nouvelles orientations. On a eu l'exemple avec le festival Le Bonheur. Quand le festival Le Bonheur annule I Hate Models, un DJ, parce qu'il fait un double booking et qu'il veut jouer à Marseille et le même soir à Berlin ou je ne sais plus où en Allemagne, du coup qu'il doit prendre un jet privé, le festival décide de l'annuler contractuellement, bah, le public a bien réagi. Et là, pour nous, c'était un peu une surprise parce qu'on pensait que ça allait faire quand même un peu tension. Le public a super bien réagi. Ils ont eu 3-4 haters, mais globalement, le public a suivi. Par contre, quand le Cabaret Vert, qui est aussi un festival très engagé sur les sujets d'éco-responsabilité, interroge ses publics sur qu'est-ce qu'on fait en termes de programmation ? Est-ce qu'au nom de l'écologie, on arrête d'inviter Calvin Harris ? Parce que si on veut inviter Calvin Harris, on sait qu'il va venir en jet privé. Il n'y a pas vraiment de choix. Hein. C'est soit il vient comme ça, soit il ne vient pas. Ben, les publics de Charleville-Mézières qui n'ont pas accès à une offre culturelle de dingue, moi je les comprends, ils disent ben non, nous on veut voir Calvin Harris sur notre territoire. Donc il y a aussi une discussion à engager avec tout le monde et un endroit des publics qui n'est pas simple à travailler ce dont ils ont envie, encore une fois pour ne pas tomber dans de l'écologie punitive, pour être dans des formes d'accompagnement. Encore une fois, dans une logique où ces transformations-là doivent être comprises, accompagnées, partagées et pas imposées de façon un peu absurde.
Ouais, parce que moi, ce qui m'intéressait quand on a préparé la table ronde avec toi, c'est que, c'est ce que j'ai un peu redit en intro, mais en fait, derrière l'écologie, en fait, c'est encore une fois, c'est un appel à révolutionner une partie de ce qu'on est en train de faire, et c'est beaucoup plus grand que juste, allez, un bilan carbone ou des éco-gestes ou faire du vélo, quoi. Je veux dire, c'est quand même ça le vrai truc, c'est-à-dire que c'est quand même l'occasion et la possibilité de réinventer fondamentalement ce qui ne nous convient pas aujourd'hui.
Oui, non, mais il y a un gros malentendu autour de ce qu'est la transition écologique. C'est-à-dire qu'il y avait un intérêt quand même globalement dans le discours public de laisser croire que la transition écologique, c'était des éco-gestes. On allait changer 3 bricoles et tout allait bien se passer. Alors qu'en fait, on sait bien maintenant, de façon claire, que la transition écologique, c'est une transformation profonde de notre modèle socio-économique. Et probablement, donc c'est très politique. Et en fait, c'est une transformation profonde de nos cultures. C'est un choc culturel. On parlait de ralentissement tout à l'heure. Et moi, je le dis souvent, quand on travaille la mobilité durable, Il s'agit moins de travailler sur une plateforme de covoiturage ou sur un parking à vélo, il faut le faire. Mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment tu fais travailler les gens sur du ralentissement, sur une autre relation à la vitesse. Et ça, c'est profondément culturel. Et ça, tu le fais pas en 2 mois. Bien sûr. Tu le fais sur un processus très long. Et après, il y a un autre malentendu sur la transition écologique, notamment à l'endroit de la culture. C'est que globalement, c'est pas une question de réduire nos impacts. En fait, en vrai, la question, c'est une question de risque à ne pas changer. Si on continue à faire ce qu'on fait, on va disparaître. Voilà. Donc y a un risque à ne pas changer. Et en vrai, moi, ce que j'essaye de tirer, et notamment quand on travaille en ruralité, dans les quartiers populaires ou dans des zones où ils ne veulent pas entendre l'écologie, c'est de montrer tous les co-bénéfices, de ce qu'on appelle les co-bénéfices de la transition écologique, en disant, mais attends, on ne va pas te faire culpabiliser sur les 2 impacts et demi que tu as, on va travailler à leur réduction, mais aux endroits où tu peux avoir des co-bénéfices pour toi, dans ta vie, de tous les jours. Dans les quartiers difficiles, quand on travaille sur l'adaptation du quartier, sur la végétalisation, c'est les premiers quartiers qui sont les plus en première ligne sur les vagues de chaleur. C'est les publics qui vont le plus souffrir de l'arrivée des vagues de chaleur. Donc en fait, on travaille sur un co-bénéfice. Quand tu travailles sur réduire les factures de chauffage, tu réduis des factures de chauffage. Il y a un co-bénéfice pour les gens. Et en fait, c'est ça qu'il faut leur amener. C'est quoi le co-bénéfice pour toi ? Sur l'alimentation, c'est souvent un sujet beaucoup plus difficile. Moi, j'amène un co-bénéfice santé avec les professionnels avec lesquels je travaille. Alors regarde, on va mieux manger et tu vas te sentir mieux. Les circassiens, par exemple, on a beaucoup travaillé avec des circassiens qui étaient très résistants à végétaliser un peu leur consommation parce que c'est un sport, il faut de la protéine, tu vois, les imaginaires qu'il peut y avoir. Et en fait, on leur a amené des choses autour de « mais tu vas te sentir en bonne santé ». Et après, les répétitions, l'après-midi, ça va être plus simple. Et en fait, assez vite, quand tu as cet angle-là du co-bénéfice, tu oublies la planète. Parce qu'en vrai... les gens qui sont engagés pour la planète, on les a déjà convaincus. Donc maintenant, il faut aller chercher d'autres manières de convaincre les gens sur les choses qui les touchent au quotidien, surtout ceux qui sont en difficulté au quotidien.
Il nous reste... Alors, moi, bien sûr, j'ai plein de questions. Et puis, de toute façon, c'est passionnant. Vous avez bien compris qu'on pourrait y passer à peu près plusieurs jours. Mais ce qu'on voulait, et en plus je sais qu'Anna, toi tu dois t'enfuir à 18h pile, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses qui ne sont pas claires, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ce que vous êtes contre, pour, enfin n'importe. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez et que vous aimeriez poser? On peut en prendre plusieurs peut-être, et après leur permettre de répondre.
Ouais. Et moi, le temps qu'il y ait les premiers timides qui se lancent dans la question, je voulais juste faire une incise en une phrase, qui est que mon métier c'est aussi de faire de l'analyse d'impact. Je ne fuis pas la question du bilan carbone, de l'impact biodiversité, on les observe. Mais voilà, c'est toujours les remettre en perspective, faire le boulot, faire ce travail d'analyse d'impact pour venir constater que, en fait, le vrai sujet, c'est pas qu'on aurait des gros impacts, c'est qu'on a un risque à ne pas changer. Et en termes d'analyse d'impact, les tournées de type, c'est ce que je voulais dire, les tournées de type de territoire où on fait de l'action culturelle, elles posent zéro problème. On atteint les seuils de soutenabilité sans problème. Ce qui pose problème, c'est l'industrie culturelle, c'est les grosses tournées, c'est le gigantisme.
Voilà. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Des choses qui ne sont pas claires? Des questions que vous auriez? Des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, pas d'accord? On vous a tué? Non, ça va? Vous êtes encore un peu en vie? Vite fait? Moi, j'en ai une. Hein. Attendant. Effectivement, moi, j'ai l'impression, quand je vous écoute aussi, quand même qu'on est dans une fin de cycle, de la façon dont on a amené l'écologie, de la façon dont on l'a présentée, de qui l'a portée, surtout. Et que ce qui est assez intéressant, c'est que cette question-là, en fait, elle disparaît pas, mais tout d'un coup, elle revient et elle est portée absolument par d'autres milieux où on n'aurait pas dit, tiens, mais en fait, ça va être elle et eux qui vont être, c'est-à-dire la question décoloniale. Bon, bah, je veux dire, pour celles et ceux qui ont déjà lu Fatima Wassak pour une écologie pirate, elle pense une écologie vers les quartiers. Elle explique assez bien. Pourquoi ça marche pas? Elle dit juste, mais attendez, moi, l'écologie bourgeoise portée par des blancs qui vivent pas dans des quartiers, ça me fait de belles jambes. Bien sûr que ça nous parle pas. Il y a la même chose sur le féminisme, il y a l'écoféminisme, etc. Il y a des autrices formidables, Geneviève Pruvot, moi, que j'adore, qui parlent de ça, qui parlent un peu de l'endroit révolutionnaire en ayant une lecture de, tiens, à quoi ça pourrait ressembler. Donc, en fait, on a l'impression que de vivre une grande fin de cycle et peut-être avec quelque chose qui donne presque l'impression de s'affaisser. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a plein d'autres choses. Et j'ai l'impression que moi, cette table ronde, pour moi, elle était importante parce que justement, c'est d'autres endroits et d'autres milieux qui s'en saisissent. Voilà. Donc, on a l'impression de... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que pour vous, non, pas du tout
De toute façon, c'est la... Je sais pas si on a le droit de dire des trucs trop politiques. Je suis sur mon lieu de travail en plus, mais bon.
Non, c'est facile pour toi.
Non, mais en fait, on est un peu sur... Là, t'as un peu croisé en plus les combats. Enfin, vraiment, t'as mentionné pas mal de trucs intersectionnels. Je crois qu'en fait, tous les combats qui sont attenants au progressisme et donc à la gauche, en fait, on est face à un moment où je pense qu'avec les claques successives qu'on a prises et qu'on commence à prendre de façon un peu trop forte, alors que je crois que ça y est, vraiment, on a compris... notamment via des saluts romains, tout ça. Enfin, je crois que vraiment, on se
les mange... Les fameux saluts romains d'Elon Musk. Quoi.
On se mange des baves pas possibles. Je crois qu'on est en train de comprendre vraiment, vraiment que peut-être que nos discours, on va devoir les adapter et ne pas juste être moralisateur. Parce qu'en fait, enfin, tu disais, David, que tu fais de l'analyse d'impact. Ça marche pas. De toute façon, juste de dire aux gens... Enfin, je veux dire, les histoires d'aller... tacler les spécificités culturelles des gens, etc. Que ce soit les gens de banlieue, que ce soit les gens des régions, truc, ça marche pas en fait, leur dire ouais, ce que vous faites, c'est pas bien, ou c'est des trucs de bof, ou c'est barbare. Mais non, mais en fait, tu vas pas attirer les mouches avec du vinaigre, c'est ça l'expression, je crois.
Attends.
On n'attire pas les mouches avec du vinaigre.
C'est bon, ouais. Toi, tu viens du sud-ouest, c'est à ça que tu fais référence du coup?
Ah ben oui, mais complètement. Mais enfin. Par exemple, je ne suis jamais allée à une corrida de ma vie, que ce soit bien clair, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça gore, machin et tout. Mais est-ce que c'est la priorité absolue? De la même façon que dans les combats féministes, quand je vois le nombre de féminicides qu'il y a encore, quand je vois le nombre de viols qu'il y a encore, moi, ça me fait chier, ça m'a toujours fait chier de voir qu'on est là à Paris ou à Bruxelles, je connais mieux Bruxelles que Paris, à se battre sur est-ce qu'il fallait mettre une virgule là ou là. J'en ai rien à foutre. Et si ça fait de moi une féministe mainstream, c'est pas grave, tu vois. Et c'est là que j'admire des Rose Lamy, préparez-vous pour la bagarre, qui passent leur temps à le répéter. Si on a une façon élitiste de faire militantisme, ça ne fonctionnera pas. Donc oui, on vivra dans des îlots progressistes où on pourra vivre notre petit idéal écolo dans le 11e, dans le 20e, le 19e à Montreuil ou à Saint-Gilles à Bruxelles. C'est cool, hein. Mais si autour ça continue de cramer, À quoi bon, quoi, franchement. Donc je crois qu'il va falloir faire un pas vers les gens, y compris vers les gens dont on pense qu'ils n'agissent pas de la façon pure et idéale dont on aimerait qu'ils agissent. Comprendre pourquoi ils agissent comme ça, leur parler tel qu'il faut leur parler en les connaissant. Et pour ça, il faut être sur le terrain. Si on est tous là à se planquer à Paris et à discuter en mode « Non mais attends, qu'est-ce qu'on va faire pour tous ces ignorants qui votent RN ?» Bah non, en fait, ça... Non mais c'est vrai, enfin, je veux dire... C'est des discussions qu'on a souvent tous. Franchement, c'est plus possible. C'est plus possible. Et je pense que tous aussi, quand on a nos potes parigots parisiens qui nous expliquent à quel point en province c'est bof, en fait, ils parlent de nos familles et nos potes. Donc c'est un peu blessant aussi. Mais ça, c'est encore un autre débat qu'on aura pour une autre table ronde, peut-être.
Ouais, je te voyais rire. Il y a des trucs qui te parlent là-dedans. À propos de ce que vient de dire Anna, ouais, du coup, tu. je sais pas qui êtes-vous. Non, mais.
Ouais, bah je me retrouve dans ce que tu dis sur la partie. En fait, je comment dire. Nous, notre geste de rencontre, il est aussi un endroit d'autopolitisation aussi. C'est-à-dire qu'on sait qu'à l'intérieur de ce geste-là, au bout d'un moment, nous, ça fait longtemps qu'on vit à Paris. Évidemment, qu'on tu chopes des manières de penser, des manières psychiques, des manières de rapport au monde. Et on a la chance extraordinaire de faire un métier de rencontre et de démultiplication à tous les endroits. Donc je pense qu'on va être souvent, la plupart du temps, extrêmement enrichi aussi. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est que pour nous, cette tournée, c'est aussi un prototype. Et je pense que c'est extrêmement difficile de... Et c'est vraiment ce truc de verticalité, moi, que je déteste. On essaie vraiment de redescendre et de déstarifier vraiment notre rapport à la musique, à notre métier, parce qu'on trouve ça assez abject, quoi. On n'a jamais fait ce métier pour s'élever socialement. Ça aussi, c'est des choses qui ont... Pour moi, c'est des rapports à l'écologie, c'est-à-dire, en tout cas, dans ce qu'on se dit aujourd'hui sur l'écologie et le monde artistique, c'est aussi ça, c'est les imaginaires. C'est vraiment le truc pour moi qui est presque central. C'est de dire, non, c'est pas dégueulasse de voir un artiste dans une école, ça fait pas mauvais genre. Moi, je trouve que ce qui fait mauvais genre, c'est, très honnêtement, un artiste devant un défilé Chanel qui a plus aucun lien avec le réel. Ça, je trouve que ça fait mauvais genre, je trouve ça indécent dans un monde où, en fait, la plupart des gens, ils ont du mal à se payer à bouffer à la fin du mois et de perpétuer cette espèce de spectacle d'élite, en fait, quoi, qui est, je pense, qui est extrêmement violent pour la plupart des gens. Donc nous, c'est aussi vraiment au centre de cette tournée, c'est ce truc-là, c'est de dire, bah, on n'a pas inventé l'eau chaude, notre métier, c'est de faire de la musique. Notre métier, si on fait de la musique, c'est de rencontrer des gens. On a la capacité de le faire à l'intérieur d'une tournée où on ralentit. Et ensuite, on déploie, mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant de rencontrer David et d'en parler, c'est aussi, bah, nous, on sait pas. On ne sait pas, on s'essaye à faire des choses, on prototype, et à l'issue de cette tournée, je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans un an ou deux si on, pour voir aussi quelles sont les choses qui seront apparues et quelles sont toutes les initiatives extraordinaires qu'on verra dans les villes sur ces sujets-là, ce qui se passe déjà dans les salles où les gens ils inventent des trucs qui sont peut-être beaucoup plus éloignés de Paris voilà, que ce qu'on est en train de faire maintenant, mais où ça pense en fait. Voilà. Donc c'est vraiment ce truc de tissage, de consteller les gestes artistiques ensemble, on va dire.
David, toi, tu voulais rebondir du coup.
Bah, bienvenue en province, hein, venez. Venez vous installer. Je confirme que quand on est à Nîmes, si on a un rapport frontal à la corrida, la discussion s'arrête. Donc si on veut avoir une discussion, il faut, même si on est contre, être capable de ne pas avoir un rapport frontal. Sinon, encore une fois, voilà, y a plus de dialogue. Et effectivement, c'est des endroits où j'utilise peu moins différemment le mot écologie, transition écologique. Encore que j'essaye vraiment de ne pas lâcher sur ce terme-là. Ce qui est intéressant, parce que quand on parle de la Camargue, par exemple, on parle d'une terre qui va couler, dont il faut faire le deuil. Et là, il y a un endroit un peu de commun entre des éleveurs taurins, entre des gens qui défendent la biodiversité en Camargue, entre des riziculteurs, entre juste des habitants camarguais qui ont quelque chose à perdre en commun. Pour l'instant, on n'arrive pas à fabriquer un dialogue autour de cette perte. Ça, c'est un peu mon fantasme, parce que je pense que ça pourrait faire union, de réaliser que tout le monde qui se tape dessus, là, sur ce territoire, et puis qui vote plutôt beaucoup au Rassemblement National, a quelque chose en commun, qui est que ce territoire, il va le perdre, il est condamné. Voilà. Et après, l'autre truc que je voulais ajouter, c'est que, effectivement, dans nos métiers, et aussi on a appris en chemin, hein, et en cheminant, moi, ça fait maintenant 7 ans que là, je suis sur cette activité, donc on a aussi, encore une fois, mûri et grandi. Il faut vraiment intégrer les logiques de l'accompagnement au changement. L'accompagnement au changement, c'est nécessairement un temps long.
C'est quoi l'accompagnement au changement ?
L'accompagnement au changement, c'est vraiment cette logique où on se dit, on sait qu'on veut transformer un territoire, des gens, des manières de faire. Il faut admettre que ça va prendre du temps. On n'est pas tout à fait sûr de où on va, hein, c'est aussi quelque chose qu'on construit. Et puis, il faut impérativement partir de là où en est la personne. Tu ne peux pas partir de là où tu en es toi-même. Tu dois partir de là où en est la personne. C'est ça, accompagner. Et là, il faut se rappeler qui on était nous-mêmes avant d'avoir shifté, avant d'avoir pris conscience. Moi, en 2016, je fais un tour du monde, je prends 10 avions. Et pourtant, en 2016, on est un an après l'accord de Paris. Donc, j'ai un cerveau. J'aurais dû déjà intégrer toutes ces choses-là. Et comment ça se fait que je n'avais pas intégré alors que j'avais l'information, la conscience, que politiquement je disais « ouais, il faut signer l'accord de Paris ». Comment ça se fait que je n'avais pas fait pivoter mes pratiques, mes manières de faire, mon modèle ? Et si on se rappelle qui on était avant, alors on peut avoir aussi une capacité à accompagner les personnes de là où elles en sont, de là où elles partent. Avec beaucoup d'humilité, encore une fois, parce que toutes les réponses, il va falloir les co-construire dans les nouveaux modèles de demain, sur tous les sujets, dans la culture, l'agriculture, sur tous les sujets.
Et je crois qu'on a Didier Varro qui se cache sur un bas-côté, et qui voulait dire un mot, mais qui ne veut plus nous parler parce qu'il a des SMS plus intéressants. On peut l'applaudir comme Didier Varro, hein. Quand même grâce à lui qu'on est là. Hein.
Je vais essayer de passer là, sous l'arc-en-ciel, parce que sinon ça fait du Larsen. Je voulais vous remercier, vous n'avez pas tout à fait terminé,
non.
Mais comme j'étais un peu en retard tout à l'heure, je voulais vous remercier pour cette rencontre qui, à mon sens, est non seulement le prolongement de ce que vous avez fait hier, qui était magnifique et qui nous laisse un peu encore au 7e ciel. Et il faut qu'on remonte au 7e ciel ce soir, donc ça va être compliqué. Mais en tout cas, merci infiniment pour ce travail que vous avez fait artistiquement, qui déjà racontait aussi le sens de ce que vous avez échangé aujourd'hui, cet après-midi. Merci, Anna, d'être là aussi, parce que ça fait très plaisir de te retrouver après notre... couloir, tunnel, qui était magnifique et qui a beaucoup parlé aussi d'engagement, de conscience. Voilà, je voulais vous remercier, les Terres Noires, parce que c'est une aventure globale en 360 que vous allez aussi mener au long cours à partir de la sortie de cet album sur les tournées. Et on a pris conscience de ça et on continue à s'élever aussi grâce à vous. La musique, c'est du divertissement, ça reste du divertissement, mais il faut savoir que ce festival est construit sur deux paramètres. Le divertissement, le plaisir ultime, évidemment, que celui d'être ensemble, mais aussi il faut que ça raconte des choses. Il faut que ça raconte un rapport au monde, et toute la programmation, elle est construite en ce sens. Et n'oubliez jamais que nous sommes un établissement de service public, que nous avons des missions, que ces missions, elles sont belles, même si elles sont parfois contredites à l'extérieur et largement aujourd'hui menacées. Donc je voulais tous vous remercier, David, Samuel et aussi le CNM. Je vais dire un petit mot quand même sur le CNM. Je ne sais pas si les membres du CNM sont là, mais en tout cas, cette conférence, elle se fait aussi grâce à eux. Le Centre national de la musique, c'est une belle idée qui a été portée par trois ex-présidents de la République qui n'ont jamais concrétisé ce rêve d'avoir un Centre national de la musique comme le cinéma a son Centre national du cinéma. Et aujourd'hui, la Cour des comptes cible ce CNM et son financement. Il faut savoir que sans CNM, il n'y aura plus de Hyper Weekend Festival, mais il n'y aura plus de tournées, il n'y aura plus de disques, il n'y aura plus d'aide au développement de carrière. Donc, c'est extrêmement important que ces acteurs publics continuent à soutenir les artistes et la filière. La filière, elle est précarisée. Les artistes en développement sont de plus en plus précarisés. Ils souffrent de maladies mentales. Ils souffrent de fragilités qui sont des fragilités qui parfois nous obsèdent. Et on est là justement pour leur offrir la lumière, le bonheur et le plaisir, mais il ne faut jamais, jamais oublier pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour faire exister la culture et la musique en particulier dans une société, je disais l'autre jour à Move chez Anna, qu'elle est archipélisée et que le seul moyen de reconstruire le lien social, c'est la musique, avec le sport peut-être. Voilà, donc merci infiniment d'être là aussi nombreux, merci infiniment à vous. Et je vais continuer ma petite course cardio. J'ai plus d'abonnement à ma salle de sport et c'est très bien.
Merci Didier. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Toi, je sais, Anna, que tu vas devoir filer, je crois. Et je ne sais pas combien de temps il nous reste. S'il nous reste peut-être 2 minutes, il nous reste. Oui, c'est assez large. Non, est-ce que vous avez des questions? Oui, on a une question. Attends, on peut t'amener un micro peut-être.
Vous êtes là-bas.
Ouais. On remercie. Attends, peut-être juste des applaudissements pour Anna qui doit partir. Mais merci à toi. Bravo.
Oui, bonjour. Moi, j'avais une question en lien avec ce qui vient d'être dit concernant le financement et le modèle économique sur la partie écologie et la partie aussi médiation qui est mise en place, par exemple, à Tourcoing pour vous. C'est des choses qui sont financées, subventionnées, j'imagine. Et avec le manque de financement de l'audiovisuel public, par exemple, et de soutien des politiques publiques, par exemple, dans les Pays de la Loire, avec ce qui s'est passé récemment. Comment est-ce qu'on peut voir un avenir à peu près sain sur ces questions-là qui sont essentielles et qui risquent de manquer de moyens d'une certaine manière?
Est-ce qu'il y a peut-être encore une ou deux questions? On peut en prendre plusieurs en même temps, sinon on terminera sur celle-ci. Ouais, celle-ci, elle est pas triste déjà.
Ouais, je suis déjà pas sûr de pouvoir répondre à celle-là en deux minutes. Hein. pas triste, effectivement, cette question. Pas de solution miracle, effectivement. En fait, ce qu'on est en train de se raconter, c'est qu'on a besoin, dans le contexte difficile qu'on vit, d'une culture à haute utilité sociale. Et la culture à haute utilité sociale, c'est une culture, du coup, de service public. Donc avec une part de financement public ou de circuits de financement qui sont un peu différents d'une logique 100% privée. C'est cohérent, voilà. C'est... Effectivement, tendanciellement, il y a cette petite musique qui va plutôt dans le sens inverse. Donc on en revient au rapport de force politique, quelle société on construit et quel est le modèle politique qui nous drive. Et puis derrière aussi cette question du financement et de comment on crée les nouveaux modèles à forte utilité sociale, je pense qu'il faut qu'on se raconte que depuis 30 ou 35 ans, on défend la culture au nom de l'utilité économique, de façon très forte. On a revendiqué qu'on faisait plus en PIB que l'automobile. En fait, c'était peut-être une mauvaise idée. Peut-être que la bonne idée, c'est de se rappeler que la culture, le sport, c'est peut-être pas pour la compétition, parce que les grands artistes et les grands sportifs, je les mets un peu dans la même case, les artisans de haut niveau et les sportifs de haut niveau. Mais c'est essentiellement pour autre chose, pour construire du lien, de la joie, du partage. Et que ça, on en a plus que jamais besoin. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup, alors à l'échelle nationale, c'est compliqué, mais il y a encore beaucoup de régions, de collectivités territoriales, d'élus locaux qui sont convaincus de ça et qui vont essayer tant bien que mal de défendre ça à leur échelle. Effectivement, dans le contexte national, c'est compliqué.
Raph, tu avais envie de répondre aussi à ça. Comment vous avez fait ?
Moi, pour rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, moi, j'aime bien aussi remettre ce truc non méritocratique de l'artiste. Les raisons pour lesquelles on est devenu musicien, c'est qu'on s'est inscrit dans un monde de service public, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé le piano dans un centre social. Mon prof, il s'appelle Kamel, j'avais 8 ans. Ensuite, on a fait du sport dans le milieu associatif. Ensuite, j'ai fait de la musicologie. Ensuite, je suis allé au conservatoire. En fait, il faut des moyens pour payer des professeurs, pour payer ces gens, pour que ce terrain-là existe. Si on coupe les budgets de la culture à tous les endroits, parce que c'est la musique, mais aussi le sport, en fait, on est imbriqué. Et mon intermittence aussi, parce que je suis intermittent, en fait, c'est tous des systèmes, ce sont des systèmes politiques, c'était de la pensée d'une certaine culture et de la place de la culture dans la société. Et je suis complètement d'accord avec ce que dit David, c'est-à-dire que si le seul résultat économique est la boussole de ces décisions-là, on est foutu, en fait. Donc, en fait, il va falloir remettre aussi une idée. Moi, j'aime bien à fort utilité sociale. Je pense qu'il va falloir aussi que les artistes l'entendent, qu'on puisse l'entendre, repenser nos pratiques à l'aune de ça. Voilà.
On va devoir rendre l'antenne. Du coup, je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Merci à vous d'être venus. N'hésitez pas, si vous voulez leur poser des questions, vous pouvez les alpaguer en sortie de... Voilà, n'hésitez pas. Merci à vous, et puis, pour la suite, je sais pas, il y a une conférence ? Génial. C'est peut-être déjà complet aussi, c'est ça ? Ah oui, d'accord. Bon, si vous voulez rester pour la suite, c'est pareil, ça va être aussi assez extraordinaire ce qui va suivre, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à vous en tout cas. Bonne journée.